et féminin. Le monde au féminin. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes.
C'est dans la presse.
Au Bangladesh, le terme « vierge » devra être retiré des certificats de mariage musulmans, selon un jugement de la Cour suprême. En vertu des lois régissant le mariage musulman dans ce pays, la fiancée doit choisir entre trois options pour le certificat « vierge, veuve ou divorcée ». Or, dans un jugement rendu le 25 août, la Cour suprême a ordonné au gouvernement de retirer le mot « vierge » pour le remplacer par l'expression « non mariée ». Le jugement ordonne également aux autorités d'introduire les options « non mariée »,« veuf » ou « divorcé » pour le futur marié sur les certificats. La pilote automobile américaine Jessie Combs, considérée comme la femme la plus rapide sur quatre roues après avoir établi un record à 640 km/h en 2013, est décédée à l'âge de 39 ans le 28 août 2019 en essayant de battre son record dans le désert d'Alvord. Mécanicienne accomplie, elle avait repris les commandes de sa voiture à réaction en octobre 2018 pour améliorer sa performance. Selon des sites spécialisés, elle avait alors dépassé les 680 km/h, mais l'essai n'avait pas pu être officiellement validé en raison d'un problème technique. Jessie Combs était une admiratrice de la cascadeuse américaine Kitty O'Neill, qui avait dépassé en 1976 les 825 km/h de moyenne à bord d'un engin à trois roues. Kitty O'Neill est décédée le 2 novembre 2018 à l'âge de 72 ans. Au Rwanda, certaines femmes se lancent dans le métier de moto-taxi, un secteur dominé par les hommes. Elles ne sont pour l'instant qu'une vingtaine à être répertoriées selon la Fédération nationale de moto-taxi. Claire Morin-Gibourg nous en dit plus.
Une femme au guidon d'un moto-taxi, on n'en voit pas très souvent dans les rues de Kigali. Louise Karegeya fait partie des quelques exceptions. Rapides et peu chères, les taxis-motos sont le principal mode de transport de la capitale. Pour Louise et ses collègues, choisir ce métier, traditionnellement réservé aux hommes, n'a pas été chose facile.
Au début, les gens refusaient de monter sur nos motos. Ils disaient qu'ils n'avaient jamais entendu parler d'une femme conduisant des motos, que c'était impossible. Mais maintenant, ils sont habitués et certains clients nous recommandent même à leurs amis. Certaines personnes arrivent et me disent « c'est mon ami qui vous a recommandé ».
Louise Karegeya travaille pour Safe Moto, la première entreprise de taxi de Kigali à embaucher des femmes comme conductrices. Jusqu'à présent, 40 femmes ont été formées avec pour objectif d'atteindre les 200 d'ici 2020. En moyenne, ces femmes gagnent entre 14 et 19 dollars par jour.
Les femmes sont des conductrices prudentes. Elles font plus attention comparé aux hommes qui sont toujours pressés et qui démarrent toujours très vite. Les femmes prennent leur temps, elles roulent prudemment.
Les femmes conductrices de mototaxi affirment que ce métier leur permet de devenir financièrement indépendantes. Mais ce secteur doit encore évoluer pour s'ouvrir davantage à la jambe féminine. Selon la Fédération rwandaise de mototaxi, il n'y a que 20 conductrices répertoriées dans le pays contre 25 000 hommes.
Parole de femme.
D Des associations féministes françaises demandent un plan Marshall de 500 millions d'euros au moins sur les violences faites aux femmes à l'occasion d'une grande concertation sur les violences conjugales du 2 septembre au 25 novembre 2019. Le ministère de l'Intérieur a recensé 121 féminicides pour 2018, soit un tous les trois jours. Les associations demandent la création, avant la fin de l'année, d'au moins 2000 places d'hébergement pour les femmes ayant dû fuir le domicile conjugal, un renforcement de la prévention contre les violences sexistes dès l'école, la création d'instances judiciaires spécialisées et une meilleure formation des policiers et gendarmes appelés à recueillir les plaintes des victimes. Plusieurs magistrats italiens ont signalé qu'une nouvelle loi pour accélérer le traitement des affaires de violences faites aux femmes submergeait leurs services en raison d'un afflux de dossiers. Entrée en vigueur le 9 août, cette loi oblige les parquets à recueillir des informations auprès des victimes présumées et à décider de la procédure à suivre dans les trois jours. En août, entre 25 à 40 incidents par jour ont été signalés à Milan, Naples et Rome. La présidente du réseau DRIRE, Leila Palladino, estime que les procureurs doivent être formés sur les violences sexistes. Et pour cause, dénonce la sociologue, de nombreuses femmes sont toujours tuées parce que la police, mais aussi les magistrats, minimisent la portée de ces violences. Ou pire encore, dit-elle, ils trouvent des alibis aux agresseurs comme la folie ou la jalousie.
Et je la trouvais.
À l'occasion de la rentrée des classes 2019 dans l'est de la RDC, notamment à Goma, dans le sud Kivu, les parents d'élèves ont appelé le gouvernement à la mise en application effective de la gratuité de l'éducation de base, comme promis par le président Félix Tshisekedi. Suivons le reportage de Charlie Kazereka à Goma.
Kambale Hilaire, la cinquantaine, au chômage depuis plusieurs années et perd d'une dizaine d'enfants.
Je scolarise 12 enfants par an, ce n'est pas si moins. Je ne saurais pas acheter des biens pour tous ces enfants. Et il y a beaucoup de parents qui sont comme moi, qui n'ont pas de travail.
Face à ces difficultés, les associations caritatives viennent à la rescousse avec un dos de kits scolaires composés de cahiers et de stylos. C'est le cas de l'association des mamans pour l'autoprise en charge et le développement à Méa d'Ansigle qui vient d'assister plus de 400 enfants en âge scolaire. Joséphine Saouda Tekarongia est la fondatrice de cette association.
J'ai une compassion envers les vulnérables. Je vais recommander à tous les partenaires locaux, nationaux et internationaux de nous appuyer. Parce qu'on voulait faire plus, mais on est limité au moyen financier.
Le gouvernement congolais promet la suppression des frais de fonctionnement des écoles qui étaient à la charge des parents. Cette mesure est jugée incomplète par la députée provinciale Adèle Bazizane, qui est aussi une ex-ministre de l'éducation. Ici au Nord Kivu.
Actuellement, avec le système éducatif congolais, ce sont les parents qui sont les premiers partenaires du système éducatif congolais. Ayant cette petite expérience, je ne voudrais pas que ce soit vraiment du chantage. Donc nous voudrions voir le gouvernement accompagner cette gratuité jusqu'à la suppression effective de frais, de primes qui sont payées dans les écoles, parce que c'est cette prime-là qui pèse sur les dos des parents. Ça ne sert à rien que nous puissions arriver à tromper l'opinion en disant qu'il y aura effectivité en supprimant les 1000 francs des bulletins, 1500 francs d'identification informatisée, 200 francs des sonates. Nous osons croire qu'il y aura effectivité.
Cette édition 2019-2020, le contexte est un peu différent avec la maladie à virus Ebola déclarée depuis plus d'une année et qui touche trois provinces de l'Est et de la RDC, à savoir le Nord Kivu, le Sud Kivu et la province de l'Ituri. Les responsables de l'éducation en province promettent déjà les mesures de prévention dans les écoles. Emmanuel Gachamba, inspecteur de l'éducation pour la formation technique au Nord Kivu.
Chaque chef d'établissement du primaire, de la maternelle et même du secondaire puisse avoir un dispositif pour le lavage des mains.
Selon les données de l'inspection de l'éducation, la ville de Goma attend environ 14 000 jeunes écoliers et écolières qui vont pour la première fois à l'école. Charlie Castereca pour VOA Afrique.
La gratuité de l'enseignement de base dans les établissements publics en RDC est prévue par la Constitution, mais elle n'avait jamais été appliquée. Pour un éclairage sur le financement de cette mesure, écoutons le reportage de Thierry Kabundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Prévu par l'article 43 de la Constitution, la gratuité de l'enseignement de base dans les établissements publics ne s'est jamais totalement appliquée en RDC durant les deux mandats de Joseph Kabila. Le nouveau président de la République, Félix Tshisekedi, qui en a fait une promesse de campagne, a tenu à la matérialiser. Mais cette gratuité a un coût. 2,8 milliards de dollars par an, selon des experts du secteur de l'éducation. Pour Jean-Marie Mangobé, le secrétaire général à l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, toutes les dispositions ont été prises par le gouvernement après une table ronde à ce sujet pour couvrir ces frais.
Le chef de l'État a pris toutes les mesures qui sont en train d'être communiquées. Ils verront les effets sur les listings de paye pour que dans nos écoles, qu'on ne parle plus de frais de scolarité, on ne parle plus de frais de motivation. Et je demande à tous les services techniques de l'EPSP de pouvoir suivre cette question de près pour que les enseignants qui n'auront pas procédé au remboursement au mépris de la décision de l'autorité soient sévèrement sanctionnés.
Mais comment et où trouver ces 2,8 milliards de dollars par an quand on sait que le budget national s'élève aujourd'hui à 4 milliards de dollars américains? Godefroy Mpoy est professeur d'économie à l'université de Kinshasa.
C'est vrai que pour la première année, ça serait quand même difficile parce que ce gouvernement n'a qu'un seul trimestre pour mobiliser des ressources. Tout ce que je peux conseiller à notre gouvernement, c'est d'abord d'auditer véritablement ces budgets-là qui s'élèvent à plus de 2 milliards de dollars. Souvent, dans ce genre de choses, il y a une surévaluation.
Une autre question que beaucoup de Congolais se sont posées au sujet de la gratuité de l'enseignement de base est liée à la catégorie d'école et d'élèves concernés par cette mesure. Charles Mutamutu est le ministre de l'éducation de la ville de Kinshasa.
La gratuité est pour l'enseignement de base, l'enseignement primaire, tel que l'est défini la Constitution, au niveau également des classes des 7e et 8e. La gratuité concerne les écoles publiques, pas les écoles privées. Nous invitons tous les parents à envoyer leurs enfants à l'école.
Les parents, justement, à qui il a été demandé d'aller retirer, pour ceux qui les avaient déjà percés, les frais scolaires de leurs enfants. Écoutez cette dame que nous avons croisée dans une école de la capitale.
Il y a le directeur qui m'avait appelé pour venir prendre l'argent parce que le gouvernement a lancé une communication que les frais scolaires sont gratuits. J'avais payé la compte de 130$ et maintenant là je viens de percevoir les 130$ que j'avais payé.
Kinshasa, Thierry Kambouni de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Défi relevé pour deux jeunes pilotes sénégalais. Dans le sillage des pionniers Jean Mermoz et Antoine de Saint-Exupéry, ils ont effectué un vol aller-retour entre Saint-Louis du Sénégal et Paris à bord d'un petit avion de 4 places. Fort de leur expérience, ils visitent les écoles sénégalaises pour inciter les enfants à aller jusqu'au bout de leurs rêves. Un reportage d'Alison Lekogo-Fernandez.
Exténué mais heureux, Biram Koulibaly, 36 ans, et Maoudou Ndiaye, 25 ans, sont de retour au Bercail après avoir passé plus de 50 heures dans les airs en quelques jours, avoir foulé le sol de 5 pays différents dans le sens aller-retour et parcouru près de 10 000 km. Un rêve d'enfant pour ces deux natifs de Dakar, dont l'un, le plus jeune, est pilote professionnel et l'autre agent dans le marketing mais passionné d'aviation. Le projet s'est concrétisé il y a quelques mois à peine, en février dernier, au cours d'une conversation entre les deux amis, Maoudou Ndiaye.
Biram et moi, on s'est assis au niveau du bar de l'aéroclub et on s'est dit pourquoi pas ramener un avion jusqu'en France, quoi. Parce qu'on voyait qu'il y avait beaucoup de rallyes qui venaient d'Europe. On s'est dit pourquoi pas essayer de faire l'aéropostale de Jean Mermoz dans le sens inverse.
Siège.
Réglé.
Fran Park.
En place.
En 4 mois, les deux compères trouvent des sponsors pour financer leur projet, mettent leur petit avion de 4 places aux normes internationales, préparent leur itinéraire et s'occupent de la maintenance de leur engin qui ne dépasse pas les 5h30 d'autonomie. Un vrai défi technique, logistique et humain pour les deux pilotes. Biram Koulibaly.
C'est arrivé en France, en fait, quand on a atterri, déjà Maoudou et moi on s'est regardé, on s'est dit ouais, on y est. Et ensuite, quand on a roulé pour aller au parking, on se rendait pas compte qu'il y avait autant de monde qui nous attendait en fait. On a vu le monde, on s'est dit mais waouh, mais c'est quoi tous ces gens, ils viennent d'où? Et ça nous a énormément touché. Et je peux vous dire que le moment de garer l'avion, ben on était en train de trembler, Maudo et moi. Déjà on avait peur de descendre et surtout on avait une petite fierté de se dire on l'a amené jusqu'ici cet avion en fait.
Lors de ce premier exploit, Biram et Maudo ont pris goût au défi. Ils souhaitent d'ici quelques mois partir à la conquête de l'Afrique avec leur petit monomoteur. Mais avant, ils ont à cœur de se rendre dans les écoles sénégalaises pour partager leur expérience et faire comprendre à la jeunesse de leur pays qu'il faut aller jusqu'au bout de ses rêves. Alison Lekogo Fernandez pour VOA Afrique.
Entre parenthèses.
Une partie de la jeunesse en Côte d'Ivoire s'est donnée pour mission de sensibiliser la population, à commencer par les jeunes, sur la protection de la planète, tandis que les partis écologistes luttent pour se faire une place en politique afin d'être entendus sur ces questions sérieuses. Georges Ibrahim Tunkara, à Abidjan, nous emmène à la rencontre de ces environnementalistes, dont notamment Antoinette Coucougnon, présidente du Conseil des écologistes pour la justice et le développement.
On avait en 1960 autour de 16 millions d'hectares de forêts primaires. Aujourd'hui, nous sommes à moins d'un million.
Antoinette Coucougnon est la présidente du CCJD, le Conseil pour la cohésion, la justice et le développement, un parti écologique né en 2016. Outre l'exploitation abusive des forêts, le parti d'Antoinette Coucougnon dénonce notamment la destruction des sols, l'érosion côtière, la pollution des eaux et l'émission des gaz nocifs. Pour elle, il est temps que l'écologie soit au centre du débat politique, social et économique en Côte d'Ivoire.
L'idéologie écologiste n'est pas encore perceptible sous nos yeux, mais nous avons nos arguments. Puisque nous avons les chefs de terre avec lesquels nous travaillons dans le monde rural, nous avons nos arguments qui amènent ces populations, ces communautés-là, à comprendre de mieux en mieux l'écologie.
Des ONG comme la Page Verte tentent aussi de sensibiliser les populations sur les dangers qui menacent la Côte d'Ivoire au plan environnemental. Kobena Kwame est l'un des responsables de cette ONG.
Aujourd'hui, nous pouvons dire que les Ivoiriens sont intéressés, bien que ce ne soit pas la grande majorité. La plupart, c'est le manque d'informations. Et puis aussi, des enjeux climatiques, il y a des gens qui n'ont aucune information là-dessus.
Jarok Dadi est étudiant et milite dans une organisation écologique. Pour lui, il faut davantage de sensibilisation.
À Abidjan, par exemple, on voit encore des jeunes qui, par des gestes, montrent qu'ils ne sont pas écolos. Et les mesures d'accompagnement, c'est que des poubelles soient installées un peu partout et fait une éducation. Parce que certes, les poubelles peuvent être installées, mais s'il n'y a pas une sensibilisation, les poubelles ne serviront à rien.
Pour Marc Dobré, directeur général de Green Invest Africa, une entreprise de conseil dans le domaine environnemental, le manque d'information est à l'origine de certains comportements.
Ce n'est pas un désintérêt. Moi, je pense que c'est d'abord une question peut-être de prise de conscience et de mentalité. On n'a pas toujours les informations, on n'a pas toujours conscience, même si on le vit au quotidien, que le changement climatique nous impacte, fait que nos rendements sont de plus en plus médiocres, que nous pouvons être à tout moment inondés par l'érosion côtière. On n'a pas toujours cette conscience-là, que les déchets qu'on gère mal ont un impact sur notre santé et sur notre cadre de vie. Donc il faut beaucoup de sensibilisation.
Il y a urgence à changer de comportement et à prendre des mesures adéquates pour faire face au changement climatique, selon Alain-Serge Quadio, directeur de l'économie verte au ministère de l'Environnement.
La Côte d'Ivoire fait partie des pays les plus vulnérables. Nous occupons la 140e place sur 176, dont l'indice de vulnérabilité est l'un des plus élevés au monde. Et l'impact socio-économique et l'impact humain est vraiment important. Aujourd'hui, on estime entre 2 à 6% de réduction de notre PIB du fait des changements climatiques, selon un rapport de la Banque mondiale.
Selon plusieurs experts, le changement climatique menace la culture du cacao, dont la Côte d'Ivoire est le premier exportateur mondial. Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
Comme nous le savons, l'autonomisation des communautés est l'une des stratégies de réduction de la pauvreté. Au Togo, des projets d'activité génératrices de revenus sont ainsi initiés à Vaugan, dans le domaine de la vannerie, qui attire de nombreuses femmes. Notre correspondante Kay Lawson s'est rendue dans cette localité du sud du pays pour rencontrer ses artisanes et artisans. Vous pouvez voir leur travail en images sur voaafrique.com.
Nous sommes à Voga-Ouga-Lomé, environ 80 km au nord-est de Lomé. Dans une grande cour, une dizaine de vanniers sont à l'œuvre. L'osier, qui est considéré aujourd'hui comme de l'or dans la localité, n'était que de l'herbe nuisible il y a encore moins d'un an. Ce matériau prisé dans la vannerie fait le bonheur de tout un village depuis que la société Ten Baitré a ouvert les yeux de cette population sur l'osier. Kosti Vileka, artisan vannier. Ten Baitré nous a montré comment on peut faire des sacs et paniers avec de l'osier. Cette herbe, nous l'avions toujours considérée comme nuisible. Nous ne savions pas qu'elle a une si grande valeur. Avant, nous utilisions des herbicides contre l'osier, mais aujourd'hui, c'est notre allié contre la pauvreté. L'osier nous sert de matière première pour la confection de très belles œuvres qui sont exportées. Avec l'osier, les artisans produisent des sacs et paniers qui sont achetés par la société Ten Baitré qui les achemine vers les États-Unis. Des sacs et paniers qui ne sont pas disponibles sur le marché togolais. Et Dosonsi, directeur de Ten Baitré Togo, affirme que la société permet aux artisans d'avoir accès au marché américain et de disposer de revenus conséquents.
Ten Baitré leur a garanti des marchés. C'est-à-dire, si tu fais, par exemple, 10, 15, 20, 30 paniers par mois, Ten Baitré prend l'engagement de racheter tous vos paniers. L'impact économique est vraiment palpable. C'est-à-dire, les gains tirés de la vente de ces paniers vous permettent d'économiser et d'ici 3 ans de mettre en place votre propre business. Ça vous rend autonome après 3 ans. Et vous êtes certifié. En quelque sorte, on vous sort de la pauvreté.
À Voga ou Gadomé, la vannerie est devenue une activité premium, un canal pour sortir de la pauvreté. Akua Agboiba, une artisane. Cela fait environ 6 mois que nous avons commencé à travailler avec Ten Baitré et nos conditions de vie se sont nettement améliorées. D'abord, l'opportunité nous est donnée d'apprendre et de maîtriser une technique assez particulière de vannerie, ce qui donne une plus-value à nos paniers. Ensuite, nous avons un métier qui nous permet de vivre dignement, loin de la misère que nous avons connue. Depuis l'implantation de Ten Baitré à Voga-Ouga-Lomé, la population, du moins ceux qui collaborent avec le groupe américain, ont le sourire aux lèvres. Dans 3 ans, ces artisans disposeront d'assez d'économies pour créer leur propre business et vivre leurs rêves. Grâce à cette activité et l'avantage que nous accorde Ten Baitré, en achetant nos paniers, je pourrais faire des économies et devenir une grande commerçante. Avec l'épargne, j'envisage faire du commerce, ce qui me permettra de sortir de la pauvreté. Ten Baitré s'est donné pour mission de nous sortir de la pauvreté. Mon rêve, c'est d'avoir ma propre ferme agro-pastorale et je pense que Ten Baitré m'aidera à le réaliser.
Anila. Me dibe madou dola a o Teresa a Penaolo.
La vannerie ne profite pas qu'aux artisans. Toute la communauté de Voga-Ouga-Lomé en a pour son compte sur tous les élèves. Ten Baitré vient d'ériger dans la localité un bâtiment de 3 salles de classe dans l'école primaire et d'équiper le collège en table banc. Kay Lesson, de retour de Voga-Ouga-Lomé pour VO Afrique.
Dibe madou dola a o Teresa a Penaolo.
Chères auditrices, chers auditeurs, le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. Bon courage et à très bientôt.
Arrête.